Épître aux Galates, chapitre 6.
Lecture de la parole. Frères, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les charges les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ. Car si, n'étant rien, quelqu'un pense être quelque chose, il se séduit lui-même, mais que chacun éprouve sa propre œuvre, et alors il aura de quoi se glorifier, relativement à lui-même seulement, et non relativement à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer à tous les biens temporels celui qui enseigne. Ne soyez pas séduits, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Or, nous ne nous lassons pas en faisant le bien, car, au temps propre, nous moissonnerons si nous ne défaillons pas. Ainsi donc, comme nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi. Vous voyez quelle longue lettre je vous ai écrite de ma propre main. Tous ceux qui veulent avoir une belle apparence dans la chair, ceux-là vous contraignent à être circoncis, seulement afin qu'ils ne soient pas persécutés à cause de la croix de Christ, car ceux-là qui sont circoncis, eux-mêmes ne gardent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de se glorifier dans votre chair. Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié et moi au monde. Car ni la circoncision ni l'incirconcision ne sont rien, mais une nouvelle création. Et à l'égard de tous ceux qui marchent selon cette règle, paix et miséricorde sur eux et sur l'Israël de Dieu. Désormais, que personne ne vienne me troubler, car moi je porte en mon corps les marques du Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, frères. Amen.
Lecture de l'étude. La fin du chapitre précédent nous a montré les œuvres de la chair d'une part et les fruits de l'esprit d'autre part, avec l'injonction très solennelle adressée aux enfants de Dieu que, s'ils vivaient par l'esprit, ce qui était nécessairement le cas s'ils étaient enfants de Dieu, ils devaient aussi marcher par l'esprit. C'était en vain qu'ils se vantaient de privilèges s'il y avait indifférence quant à la marche pratique. Nous ne pouvons avoir la vie par le Saint-Esprit sans être en même temps liés par les déclarations les plus solennelles selon lesquelles le Saint-Esprit devrait aussi être la grande force directrice de la marche. L'acte n'est que l'expression extérieure du principe intérieur. La vie ne peut être connue d'une manière absolue que de Dieu. La marche est ce qui est manifesté devant les hommes. Mais maintenant, outre qu'il exhorte à se garder de vaine gloire, sous n'importe quelle forme, soit en se provoquant les uns les autres, soit en se portant envie les uns aux autres, chapitre 5, verset 26, nous trouvons un nouveau terrain abordé au commencement du chapitre 6.
Ne soyons pas désireux de vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres.
Frères, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Supposons qu'un homme aille tout à fait mal et soit positivement surpris dans ce qui est évidemment mauvais, que faire alors? Encore le Saint-Esprit souligne que ceux qui sont spirituels redressent un tel homme dans un esprit de douceur. Une expression d'une très grande importance, certes. Car d'abord, en cas de chute, par manque de vigilance et de dépendance de Dieu, nous apprenons quels sont ceux le plus à même de faire face aux besoins. C'est l'obligation de tous, d'une manière générale. Mais quels sont ceux que le Saint-Esprit presse d'agir comme il convient à l'égard d'un tel cas, vous qui êtes spirituel? Or celui qui est né de Dieu n'est pas nécessairement spirituel. Vivre par l'Esprit est une chose très différente que d'être spirituel. Un homme spirituel non seulement vit par l'Esprit, mais marche par l'Esprit. Naturellement, il a les mêmes infirmités que les autres hommes, et il se peut que de temps à autre il montre ce qui est de la nature. Mais à tout prendre, et d'une manière manifeste, par la grâce de Dieu, il a appris à juger le moi, à ne pas l'épargner, à discerner, surtout en lui-même, tout éloignement du Seigneur, et à le confesser franchement et humblement devant Dieu. En conséquence de ce jugement habituel de soi-même, il y aura une tendresse beaucoup plus grande en s'occupant du péché chez les autres. De tels chrétiens peuvent avoir un discernement pénétrant, mais lorsqu'il s'agit de ce qui est réel et très sérieux, quelque chose peut-être dont plusieurs cesseraient de s'occuper, comme rendant le cas sans espoir, et qui les conduirait à penser que la personne ne peut pas être chrétienne du tout, ces chrétiens, parce qu'ils connaissent mieux la subtilité de la chair aussi bien que la grâce de Dieu, peuvent compter sur sa bonté. Et ce sont les personnes mêmes qui conviennent pour s'occuper du mal et pour rétablir cette âme. Ainsi donc, vous trouverez toujours dans les cas qui demandent à être traités avec grâce que c'est à ceux qui sont spirituels d'agir, et non à ceux qui sont eux-mêmes les plus habitués à broncher, ni à ceux qui sont sujets à satisfaire la chair et à s'éloigner du Seigneur. Quelques-uns pourraient penser que de tels hommes sont probablement ceux qui agiront avec compassion à l'égard de ceux qui bronchent, mais au contraire, ceux-là conviennent qui, en règle générale, marchent soigneusement et en se jugeant eux-mêmes, et qui sont ainsi gardés de chute, parce qu'ils s'appuient habituellement sur un Seigneur fidèle, parce que la puissance même qui les préserve de s'égarer est ce qui leur fait comprendre la grâce de Dieu et utiliser cette grâce pour d'autres. Il est ainsi dit à ceux-là de redresser un tel homme dans un esprit de douceur. Il ajoute encore, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Cela serait justement ce qui se présenterait à l'esprit d'un homme spirituel. Il a le plus profond sentiment de sa propre faiblesse, et par conséquent il serait tout prêt à estimer les autres supérieurs à lui-même. Comment cela? Ce n'est pas naturellement que celui qui a fait des progrès dans les voies de Dieu doive regarder la connaissance d'un jeune enfant comme supérieure à la sienne. Ce n'est pas qu'il n'existe dans l'Église, d'une part ceux qui sont peu estimés, et de l'autre des hommes d'un jugement éprouvé et spirituel. Ce n'est pas que nous devions supposer que tous sont également sages, forts et honorables. Ce ne serait pas de la foi mais du fanatisme, quelque chose de contraire à toute pensée juste. Dans quel sens, donc, devons-nous estimer les autres supérieurs à nous-mêmes? Lorsqu'un croyant qui a quelques mesures de spiritualité pense à lui-même, ce qu'il sent, c'est combien il est loin de réaliser Christ. Il a habituellement devant lui combien ses manquements sont grands, même dans ce qu'il désire dans ses voies devant Dieu. Mais quand il considère son frère, même le plus faible possible, et qu'il le voit comme un bien-aimé de Christ, dans la pleine valeur de son acceptation dans les tendres affections du Père, et objet de celle-ci, cela réveille à la fois l'amour et le dégoût de soi-même. Si donc la grâce est à l'œuvre, ce qui, dans un autre saint et semblable à Christ, se présente aussitôt devant le cœur comme ce qui ne ressemble pas à Christ dans soi-même. De sorte que ce n'est pas une question de s'efforcer à entretenir des sentiments élevés à l'égard de ses voisins et à penser qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas, mais de croire réellement ce qui est vrai à leur égard et d'avoir aussi des sentiments justes à l'égard de nous-mêmes. Si l'on pense à ce qu'est un saint en Christ et pour Christ et à ce qu'il sera par le moyen de Christ, alors le cœur comprend combien merveilleuse est son amour et quelle prise a un saint pour le Seigneur. Mais quand l'œil est tourné vers soi-même, toute l'indignité de nos voies, de nos sentiments, de nos manquements s'offre à notre mémoire de manière à nous humilier. Il en est ainsi dans « Prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté », avec cette différence que ce n'est pas tant considérer ce que nous avons été, mais plutôt ce que nous avons à craindre et contre quoi nous avons à veiller. Mais, en outre, au verset suivant, il les exhorte à porter les charges les uns des autres. Il y a des difficultés, des épreuves, des sujets de tristesse. Il y a des choses qui ont la forme d'infirmité. Il y a des circonstances de la nature la plus variée et la plus pénible qui pèsent sur les enfants de Dieu. Et si nous désirons montrer quelle prise un chrétien a pour nous, l'occasion peut être facilement trouvée. Portez les charges les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ. Baissez-vous et portez la charge sous laquelle gémit votre frère. Les 10 commandements peuvent ne pas l'exiger, mais vous accomplirez ainsi la loi du Christ. C'est là la loi pour nous chrétiens. Il n'est pas question de la loi de Moïse, parce que, quoique cette loi soit celle de Dieu, et qu'elle doive toujours être la mesure selon laquelle Dieu agit à l'égard de l'homme naturel, Dieu s'occupe ici de ceux qui vivent par l'Esprit. Or, à Sinaï, la loi n'a jamais été donnée à l'homme spirituel, mais à un peuple charnel, savoir à Israël. La loi s'adresse à l'homme naturel, et par conséquent, elle s'occupe de ce qui est mauvais en lui. Qui peut dire au nouvel homme « Tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas » Le nouvel homme convoite-t-il jamais ou commet-il adultère? L'idée même porte évidemment en elle-même la preuve que toute la théorie est fausse. La loi des 10 commandements n'a jamais été, en aucune façon, adressée au nouvel homme. Le nouvel homme peut en faire usage, mais c'est là une chose très différente de la prendre comme l'expression de sa propre responsabilité devant Dieu. Si nous sommes des saints, nous ne sommes pas occupés à faire pour avoir la vie, mais nous sommes vivants pour faire la volonté de notre Seigneur sans une pensée telle que la mort ou la malédiction. Je vous le demande, à vous qui insistez en faveur d'une règle légale, qu'est-ce que cette loi du Christ? Christ a toujours été occupé des autres. Il n'a jamais fait, dans un seul acte de sa vie, sa propre volonté. C'est là précisément être saint dans l'amour, et c'est ce que Christ a été, obéissant et vrai dans l'amour. C'est ce qui a caractérisé toute son existence ici-bas. Supposons que nous devons accomplir tous nos devoirs simplement parce que nous pensons que cela est juste. Ce serait toujours mauvais. Comme chrétien, j'aurais manqué dans ce qui est le plus près de Dieu, et pour cette simple raison, c'est que faire simplement son devoir, parce que c'est son devoir, ne place pas l'âme dans une attitude d'obéissance, mais peut bien, au contraire, n'être qu'orgueil et satisfaction de soi-même, et un hommage rendu à l'idole la plus cachée du cœur. Faire ce que je juge être bien peut n'être donc pas mieux qu'une rébellion subtile contre Dieu. Je n'ai aucun droit de choisir mon propre chemin. Je suis appelé à l'obéissance si je prends la place de créature devant lui, et plus encore si je suis son enfant et que je me reconnaisse tel. La question est donc, quelle est la volonté de mon Père? De quelle manière infiniment belle notre Seigneur l'a manifestée, même avant d'être entré dans la partie publique de son ministère? Il avait toujours, et cela dans le sens le plus élevé, la conscience de sa propre relation. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père ? Et il en fut ainsi dans chaque occasion. Considérez-le plus tard dans son ministère, même dans une chose qui en appelait avec tant de force à ses affections comme homme, quand Lazare se mourait, pourquoi demeura-t-il encore 2 jours au lieu où il était, après avoir appris qu'il était malade ? Non seulement il n'agit pas sur la base de ce qui est simplement bon, mais pas non plus sur la base simplement de son amour envers celui qu'il aimait, mais il lui fallait le commandement de son père avant d'aller. C'est ce que nous avons besoin de nous rappeler. Si vous prenez la loi donnée à Sinaï, vous trouvez Dieu exigeant ce qui condamne un pécheur. Dieu ne s'y révélait pas comme père. Prenez encore la souveraine de ce pays. Elle envoie son armée au dehors pour attaquer un ennemi étranger ou une parole d'autorité pour agir à l'égard d'une province rebelle. Qui voudrait soutenir qu'elle agit comme mère dans ces cas ? Qui voudrait conclure que nous la voyons ainsi dans ses rapports avec ses enfants ? C'est comme souveraine et à l'égard de sujets rebelles qu'elle agit ainsi. À Sinaï, il y avait une nation, des sujets rebelles de Dieu, et il proclamait au milieu des tonnerres et des éclairs, et d'une voix plus terrible que tout cela, ce qu'il ne pouvait qu'exiger d'Israël coupable. Mais lorsque Dieu, qui a parlé d'une manière si terrible, parle maintenant, comment le fait-il ? Par son Fils. C'est le même Dieu, mais combien est différente sa voix. Dieu maintient toujours son droit et son titre, non seulement pour donner effet à ce qu'il a annoncé en rapport avec Israël jadis, mais pour introduire ce qui est nouveau. Que signifie une nouvelle alliance si elle ne rend pas ancienne celle qui précédait ? De même, ici, nous avons la loi du Christ en contraste marqué avec la loi de Moïse, qui avait affaire à une chair rebelle. La loi du Christ dirige ceux qui vivent par l'Esprit et qui devraient marcher par l'Esprit, et qui néanmoins ont encore une nature mauvaise. Et comment seront-ils fortifiés dans la nouvelle nature, et comment vaincront-ils la vieille ? Ils dirigent aussitôt leur regard vers Christ, et il dit « Portez », etc. Telle est la manière pleine d'amour non égoïste d'accomplir la loi du Christ. Que votre âme s'intéresse aux saints qui sont dans le besoin et dans la détresse. Et quand même il y aurait ce qui est positivement mauvais, cela vous conduira à regarder à Dieu pour présenter quelque chose venant de Christ, propre à relever cette âme qui a glissé dans le bourbier. Il introduit d'abord le cas flagrant d'une personne qui tombe dans le péché, et ensuite il élargit le sujet. Si vous voulez savoir quel est le sentier de Christ maintenant, et quelle est la volonté de Dieu, voici ce que Christ faisait. Il est venu dans un monde rempli de mal et d'opposition à Dieu, rempli d'orgueil et de vanité, et qu'y faisait-il ? Il passait de lieu en lieu faisant du bien, et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, etc. Quoique nous ne puissions pas faire des miracles, toutefois dans tout ce qui, dans son esprit, ressemble à Christ, le principe moral de la vie de Christ ici-bas est précisément ce que tout croyant possède. Si vous avez réellement Christ, vous avez Christ non seulement quant à l'expiation, mais comme votre vie, qui croit au Fils, à la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Christ, tout aussi réellement que, par le fait que je suis né d'Adam dans ce monde, j'ai reçu une vieille vie naturelle qui aime le mal et qui, comme elle augmente en force, augmente en capacité pour accomplir sa volonté propre. De même aussi, si je crois en Christ, il y a cette nouvelle vie qui est produite, qui se développe dans la proportion où l'âme se nourrit de Christ et regarde à Christ et elle médite sur les paroles et les voix de Christ. Il y a une puissance d'assimilation communiquée ainsi aux croyants par le Saint-Esprit. Les paroles de notre Seigneur sont esprit et sont vie. Ce n'est pas seulement qu'elles produisent la vie en premier lieu, mais elles soutiennent la vie et sont le moyen de sa vigueur. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous montre, 1 Pierre chapitre 1. Il parle de la semence incorruptible, la vivante et permanente parole de Dieu. Mais ensuite, il montre que cette même parole de Dieu, qui est le moyen de communiquer d'abord la vie par la révélation de Christ, est aussi le moyen donné pour la fortifier et la rafraîchir. Ainsi, il les exhorte, comme des enfants nouveau-nés, à désirer ardemment le pur lait intellectuel. La parole de Dieu, qui est d'abord employée pour introduire la vie dans l'âme en faisant connaître Christ, est ce qui maintenant maintient la vie, la fait se développer et l'amène à s'exercer d'une manière salutaire. Et voici un moyen, porter les charges les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ. C'est là ce que Christ faisait quand il était ici-bas. Il ne chercha pas sa propre satisfaction. Il ne choisit jamais un sentier agréable et commode. Mais au contraire, tous les cas de misère et de péché et de douleur, voilà ce qui occupait le Seigneur Jésus, pourvu que ce fût la volonté de Dieu. Quand il prit sa place comme homme sur la terre, il y avait l'exercice continuel de communion entre le Seigneur Jésus et son Père, l'esprit de dépendance du Dieu vivant, qui n'agissait jamais sans la direction de son Père. Et il devrait en être ainsi avec nos âmes. Si nous nous appliquons ainsi à porter les charges les uns des autres, nous avons besoin de nous attendre à Dieu à ce sujet, afin de connaître quelle est la volonté du Seigneur. Il ne s'agit pas de la loi, ni d'ordonnance, mais porter les charges les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ. Car si, n'étant rien, quelqu'un pense être quelque chose, etc. C'est là l'effet invariable de la loi lorsqu'elle agit sur l'esprit. Elle suppose que l'homme a de la puissance, en tout cas qu'il est encore en vie comme un homme dans le monde. Mais c'est la chose même à l'égard de laquelle nous déclarons, dans notre baptême, que telle n'est plus notre confession. En effet, qu'est-ce que le baptême d'un homme chrétien présente? C'est la reconnaissance du Christ qui est mort et ressuscité, et de ce que, dans la mort de Christ, je suis mort au péché et au monde, et au jugement de Dieu aussi. Je suis passé hors de la scène des hommes en vie sur la terre, et je suis introduit dans une nouvelle condition devant Dieu. J'ai commencé une nouvelle vie, je suis mort aux choses pour lesquelles je vivais autrefois, et je suis vivant à celles à l'égard desquelles j'étais mort. C'est dans tout cela que Christ fait entrer celui qui croit. Manifestement donc, si n'étant rien, quelqu'un pense être quelque chose, il se séduit lui-même. La loi n'écrase jamais l'orgueil de l'homme, et l'homme supportera tout ce qui suppose qu'il peut faire quelque chose. La loi agit simplement sur la nature de l'homme, et elle l'enfle, à moins qu'elle ne soit employée par le Saint-Esprit pour le tuer dans sa conscience. La nature pervertit la loi en y attachant l'idée qu'elle, la nature, peut faire quelque chose. Et les hommes aiment cela, et sont d'autant plus satisfaits d'eux-mêmes. C'est là ce que l'Évangile détruit à sa racine même. Et il en résulte que des personnes qui sont extrêmement satisfaites d'elles-mêmes, lorsqu'on les place sur le terrain de faire de grandes choses pour Dieu, seraient profondément mortifiées et blessées si on leur disait nettement qu'elles ne sont pas capables de le servir. Combien peu supporteraient qu'on leur dise qu'ils n'ont jamais adoré Dieu pendant toute leur vie, et qu'ils ne peuvent le faire jusqu'à ce qu'ils soient nés de Dieu. Ils sont blessés par une doctrine telle que celle-ci, parce qu'elle fait que le moi n'est rien et que Dieu est tout. Elle met devant eux le terrible péril auquel ils sont exposés, qu'ils sont perdus en fait. S'ils le croyaient, ils crieraient à Dieu à ce sujet, et ils regarderaient à Dieu pour qu'il leur donne une vie nouvelle. Mais aussi longtemps qu'on s'adresse aux hommes sur des principes légaux, la distinction entre ce qui est du premier homme et ce qui est du second est plus ou moins perdue. On s'adresse à l'homme comme tel, et on ne le traite pas entièrement comme un pécheur ou comme un saint. mais les deux choses sont confondues, en sorte que les âmes ne savent pas clairement si elles sont sauvées ou perdues, si elles sont passées de la mort à la vie, ou si elles sont encore sous la colère de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous en trouvons tant, quelques-uns même qui sont de vrais croyants, qui sont souvent éprouvés par des nuages et des éclipses. La racine de la chose est dans l'abus de la loi. C'est ce qui opérait parmi les Galates. C'est ce qui a retenu et lié par les chaînes de leurs péchés tant de milliers d'enfants de Dieu depuis ce temps-là. Cela agissait donc sur leur chair et leur faisait penser qu'ils étaient quelque chose, tandis qu'à vrai dire, ils n'étaient rien. Et quand il en est ainsi d'un homme, il est évident, comme l'apôtre ajoute, que « il se séduit lui-même ». Rien ne peut être plus incisif que les paroles qu'il emploie ici. Mais s'il se soumettait à la parole, s'il consentait à n'être rien, mais à laisser agir Dieu, il ajoute, mais que chacun éprouve sa propre œuvre. Dieu commence sur cette base que nous ne sommes rien, qu'il faut que le sage devienne fou pour qu'il apprenne à être sage. L'homme n'aime pas cela et regimbe, et la conséquence est qu'il demeure toujours dans sa propre faiblesse. Au contraire, vous ne trouverez jamais un homme qui soit dans la vérité quant à sa propre ruine, sans trouver que Dieu est là, dans la vérité de son amour, lui donnant la vie éternelle dans son Fils. Qu'il éprouve sa propre œuvre, et alors il aura de quoi se glorifier, relativement à lui-même seulement, et non relativement à autrui. Supposons que quelqu'un examine vraiment tout, éprouve ainsi son œuvre. Il se glorifiera alors en lui-même seul, et non en autrui. Ici l'apôtre porte un coup qui va au cœur, qu'il la mette à l'épreuve. Sans doute le Seigneur reconnaîtra le vrai service, mais toutes les fois qu'un homme examine et éprouve droitement son œuvre, ce n'est jamais un sujet de se glorifier, mais une chose profondément humiliante de toute manière. Mais au moins, quand le vrai temps sera venu, il y aura la moisson si nous ne défaillons pas. L'apôtre conclut cette partie de son sujet par une autre parole et une parole qui pourrait sembler paradoxale si on la compare avec le verset 2. Car chacun portera son propre fardeau. En fait, nous avons ici les deux grands principes pratiques du christianisme. L'un est l'amour actif et énergique qui porte les charges des autres, et l'autre est la responsabilité personnelle. Chacun portera son propre fardeau. Remarquez bien, il n'est pas question ici du salut. Si un homme avait à porter son propre fardeau quand il s'agit de justification devant Dieu, ce serait détruire tout espoir. « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, dit le psalmiste, car devant toi nul homme vivant ne sera justifié. » Si dans cette question Dieu entre en jugement avec moi, je suis perdu. Il est dit « N'entre pas en jugement, non pas avec un homme pécheur, mais avec ton serviteur. » C'est un homme converti ou régénéré. C'est pour cela que notre Seigneur présente un principe totalement différent dans la question de savoir si un homme ne sera pas laissé pour périr de sa propre mort, ou s'il sera délivré par la puissance de la vie de Christ. Il dit « en vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. » Mais il est passé de la mort à la vie. Vous remarquerez que dans ce passage, j'ai employé le mot « jugement » à la place de « condamnation » qu'on trouve dans plusieurs versions. Je l'ai fait intentionnellement, parce que c'est le seul vrai sens du mot. « Condamnation » est une erreur positive. Le mot qui est avec raison traduit par « condamnation » ailleurs est totalement différent. Ainsi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Ce n'est pas du tout le même mot. Mais quelquefois, Là où notre Seigneur et le Saint-Esprit disent « jugement », les traducteurs se sont hasardés à s'écarter de la parole de Dieu et ont introduit le mot « condamnation ». Et ce n'est pas limité à un passage seulement. Dans la révélation remarquable à l'égard de la scène du Seigneur dans 1 Corinthiens 11, il se rencontre une erreur très semblable. Les traducteurs ont introduit un mot et une idée qui leur sont propres et qui renferment une erreur non équivoque. Ils se sont hasardés à dire que celui qui mange et qui boit indignement mange et boit sa condamnation. Cela n'est pas vrai. Dieu dit qu'il mange et boit un jugement contre lui-même. Il n'y a pas un juge compétent, pas un homme chrétien qui connaisse le langage du Saint-Esprit, qui pourrait le nier s'il examinait convenablement la preuve. La tradition humaine explique le penchant de personnes à mettre de côté des principes clairs de vérité. Car ce n'est pas tant une question qu'il faille décider d'après des bases critiques. Mais un tel changement contredit tout le but du Saint-Esprit dans le passage. Qu'est-ce que l'apôtre disait à ses Corinthiens ? Vous avez traité indignement la scène du Seigneur en faisant une chose ordinaire. Quelques-uns d'entre vous se sont même oubliés au point de commettre ouvertement un péché grossier. Il y a une solennité particulière dans la scène du Seigneur comme dans le jour du Seigneur. Celui qui prétend que le jour du Seigneur est le sabbat et que la scène du Seigneur ressemble à une ordonnance judaïque ne sait pas ce que signifient les deux institutions chrétiennes les plus caractéristiques. Le jour du Seigneur diffère de tout autre jour. C'est le jour de la grâce et de la résurrection, le jour du sabbat étant le signe de la création et de la loi. Il en est de même de la scène du Seigneur. En elle, le Seigneur place devant le chrétien sa parfaite délivrance, le sang et le corps rompus de Christ, et donne le témoignage à son âme qu'il est affranchi de toute condamnation. Or, dit l'apôtre, vous qui avez mangé et bu comme à un repas ordinaire, vous y avez participé indignement. Car il se pourrait qu'une personne convertie mange et boive indignement. Ces scènes de Corinthe l'apprenaient légèrement, et le diable avait pris l'avantage sur eux, et quelques-uns même en étaient venus à s'enivrer. C'était, dit l'apôtre, manger et boire un jugement contre eux-mêmes, non la scène du Seigneur. La conséquence était que quelques-uns d'entre eux étaient malades, et d'autres se mouraient. Il leur donne à connaître que le Seigneur les jugeait et mettait sa main sur eux. Mais, sans aucun doute, c'était là un jugement et non la condamnation ou la damnation. Et quel était le but du Seigneur dans tout cela? Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Mais si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est afin que nous n'ayons pas la damnation, tandis que la version ordinaire suppose que les Corinthiens étaient exposés à cette sentence même. Lisez le mot comme étant jugement, et vous trouverez que cela jette une lumière toute nouvelle sur le passage. Introduisez l'expression impropre, et vous détruisez l'équilibre d'une manière tout à fait irréparable. Mais du moment que vous revenez au vrai sens, suggérez dans la marge de la version anglaise, tout est rendu clair. Ce qui auparavant était obscur et troublait votre âme, vous le voyez maintenant comme étant simple et solennel, saint et en même temps consolant. Si vous avez traité légèrement ce qui rappelle le souvenir des souffrances du Seigneur, vous êtes en danger de vous trouver ainsi sous sa main. Quelques-uns avaient même été ôtés de ce monde. Mais c'est afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ce qu'ils donnent à entendre, c'est qu'ils étaient de si méchants enfants qu'ils ne pouvaient être laissés plus longtemps dans ce monde. C'est pourquoi Dieu leur avait envoyé des maladies et les avait enlevés par la mort. La signification du mot « krima » dans 1 Corinthiens 11 est très proche de celle du mot dans Jean 5 « crisis ». Ce que notre Seigneur enseigne dans l'Évangile, c'est qu'il faut que les hommes reçoivent de Christ l'une de ces deux choses, ou la vie, ou le jugement. La principale différence, c'est que dans Jean 5, le jugement est l'acte de juger, final et éternel, tandis que 1 Corinthiens 11 parle de l'exercice de la discipline dans ce monde. Mais le mot juste, c'est jugement et non condamnation. Notre Seigneur montre qu'il est lui-même celui qui donne la vie en communion avec le Père et celui qui exclusivement exécutera le jugement. Maintenant, il donne la vie. Quiconque croit en lui a la vie. Quiconque le refuse doit venir en jugement, car personne ne saurait être à la fois l'objet et de la vie et du jugement. La raison pour laquelle il y en aura qui viendront en jugement, c'est qu'ils rejettent le Fils de Dieu et la vie éternelle en lui. Celui qui a le Fils a la vie. C'est là la force des paroles de notre Seigneur. Il pouvait demander: comment cette vie éternelle peut-elle être obtenue? Est-ce par l'obéissance, ou bien par une ordonnance, ni par l'une, ni par l'autre? En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui qui entend ainsi et qui croit ainsi sait que Dieu s'intéresse aux âmes, qu'il désire les avoir heureuses et sans péché par le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a plus. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est absolument la même chose en Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela, le jugement. C'est le même mot. Telle est la portion de l'homme, et il ne peut y échapper. L'homme, comme tel, doit mourir et doit être jugé. Mais remarquez-le bien, c'est celui qui vit et qui meurt comme un simple homme naturel. Il n'est pas dit que cela soit ainsi réservé pour le chrétien. Au contraire, il y a beaucoup de chrétiens qui ne mourront jamais, et il n'y a aucun saint qui sera jugé éternellement. Je dois prouver ce que je dis ici par d'autres passages. Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. C'est-à-dire que les saints vivants seront ravis avec les morts qui sont déjà ressuscités. Mais prenez un autre passage. Nous ne nous endormirons pas tous. Les hommes doivent tous mourir. Mais nous ne nous endormirons pas tous. Nous ne mourrons pas tous nécessairement, mais nous serons tous changés. Qu'il s'agisse de chrétiens qui sont morts ou de chrétiens vivants, tous doivent être changés, être rendus conformes à l'image du premier-né, être glorifiés dans leur corps. Mais tous les saints n'auront pas quitté cette vie, tous n'auront pas besoin d'être ressuscités. Car ceux d'entre les chrétiens qui seront trouvés vivants lorsque Christ viendra, seront ravis pour être avec Christ et seront transformés à son image glorieuse, sans du tout passer par la mort, comme au temps d'Enoch, transformés aussitôt à la ressemblance de la gloire de Christ. C'est là ce que nous tous, comme chrétiens, nous devrions attendre constamment, sans savoir quand la chose pourra arriver. C'est pourquoi il est dit, « Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. » Mais que deviendront ceux qui ont refusé Christ? Ils doivent tous être jugés. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela, le jugement. Mais plus que cela, et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela le jugement, ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois, sans péché, à salut à ceux qui l'attendent. Vous avez là les deux portions, celle de l'homme, la mort et le jugement, celle du chrétien, Christ, la seule offrande pour les péchés, est prêt à revenir en gloire pour leur salut final et complet, non pour le jugement. La question du péché a été si complètement réglée à la première venue de Christ que jamais la moindre question ne sera soulevée à cet égard. Quand il reviendra, il apparaîtra une seconde fois sans péché, c'est-à-dire à part le péché et n'ayant plus rien à faire avec lui à salut. Il a lui-même souffert pour le péché, il l'a aboli lui-même, et la conséquence est que tout croyant, peu importe où il est, peu importe ce que peut être son ignorance, a le droit d'attendre le Seigneur qui viendra pour lui et qui viendra pour tous ceux qui se sont endormis en Christ avant lui. Il a le droit de savoir que Christ ne l'appellera jamais en jugement, parce que, ayant été jugé pour lui, et ayant pour toujours aboli le péché par le sacrifice de lui-même, il apparaîtra une seconde fois à ceux qui sont tels, sans péché, à salut. Mais quant à ceux qui refusent Christ, bien loin de ne pas venir en jugement, ils seront expressément ressuscités des morts pour le jugement plus tard. C'est la résurrection de jugement. Son effet, sans doute, sera la damnation. Mais sa désignation scripturaire, c'est le jugement. C'est le même mot que plus haut. Le but en vue duquel les méchants seront ressuscités, c'est le jugement. Et quel est le caractère de la résurrection du croyant? La vie. Afin que la même vie, qui est maintenant donnée à nos âmes et son libre cours, et son plein développement sur nos corps, que nous soyons parfaitement remplis de la vie de Christ, corps et âme. Telle est l'attente du chrétien. Ainsi donc, dans ce verset 5, chacun portera son propre fardeau. Il n'est pas du tout question de porter chacun notre fardeau en jugement. S'il en était ainsi, pas une seule âme ne pourrait être sauvée. Pas une ne le mérite. Car qui n'a pas été coupable de péchés graves et mortels? Des péchés qu'il n'aurait pas été possible à Dieu de pardonner, à moins d'avoir un moyen parfait qui lui soit propre, et il l'a. Mais ce moyen lui coûta son Fils, et la croix de son Fils, et la croix est le triomphe de Dieu. À la croix, Christ a pour toujours aboli le péché pour toute âme qui croit en lui. C'est pourquoi, quand il dit « chacun portera son propre fardeau », c'est simplement en vue des difficultés et des épreuves dans la vie pratique. « Souvenez-vous, dit-il, de porter les charges les uns des autres. Mais, après tout, chacun doit porter son propre fardeau. Il faut que chacun de nous ait affaire à Dieu pour lui-même. Nous ne pouvons trouver aucun autre qui réponde pour nous. » Il y en a qui prétendent que les paroles de Hébreux 13, verset 17, « Il veille pour vos âmes comme ayant à rendre compte » enseigne que les serviteurs répondent pour les âmes des autres. Mais c'est un non-sens, ou pire. Le principe est faux. Il n'y a pas une chose telle qu'une personne rendant compte de l'âme d'une autre. Chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Le pécheur doit être jugé, mais chaque saint, aussi bien que chaque pécheur, devra rendre compte pour tout à Dieu. Le Seigneur dit que le croyant ne viendra pas en jugement, dans le sens qu'un homme est mis en jugement pour voir s'il sera sauvé ou non. Cela ne saurait jamais être le cas d'un homme qui est chrétien. Toutes choses seront manifestées devant le Seigneur. Non seulement les péchés que nous avons pu commettre depuis que nous sommes croyants, mais ceux que nous avons commis quand nous étions inconvertis. Nous pourrions supposer que cela serait terrible au-delà de toute expression. Mais souvenons-nous de la condition dans laquelle le croyant sera quand il rendra compte pour lui-même à Dieu. C'est quand il sera semblable à Christ, quand il n'aura pas un seul sentiment qui ne soit de Christ, pas un désir qui ne soit pour la gloire de Christ. Tout sentiment de honte aura disparu, et ce qui demeurera, c'est uniquement ce qui est selon Christ. La pensée que Christ nous établira tous parfaitement semblables à lui-même, dans la gloire est la réponse immédiate à toute anxiété de l'âme. Mais alors que tout cela est vrai, il est important de garder à l'esprit qu'il y a maintenant un jugement très actif en cours. Le Père observe nos voies et agit envers nous, et nous devrions examiner nos voies jour après jour. Chacun, qu'il soit un saint ou un pécheur, devra rendre compte pour lui-même à Dieu. La puissance de Dieu l'accomplira dans l'un et dans l'autre. Dans l'un pour son entière condamnation, dans l'autre afin qu'il apprenne de quelle manière absolue il est redevable à la grâce de Dieu. Mais c'est une chose différente du jugement. Nous ne pouvons trop insister sur ce point qu'être manifesté devant le tribunal du Christ, ce n'est pas nécessairement le jugement. Aucune parole de l'Écriture ne peut jamais mettre de côté cette vérité que « celui qui croit ne vient pas en jugement ». Dieu ne se contredit jamais. Que chacun doive porter son propre fardeau, cela se rapporte à notre responsabilité. Quelle chose merveilleuse que celle-ci, que nous en avons fini avec notre responsabilité comme homme, et que maintenant que nous avons Christ, une nouvelle responsabilité commence pour nous. Nous avons maintenant à nous conduire comme ceux qui ont la vie éternelle, qui n'appartiennent pas à eux-mêmes, mais à celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. Maintenant commence notre responsabilité de vivre pour Christ, de lui consacrer la nouvelle vie que Dieu nous a donnée, dans la conscience que, en même temps, le Seigneur sonde nos voies jour après jour. Vient ensuite une autre chose, et il semblerait que ces saints l'avaient oublié, que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer à tous les biens temporels celui qui enseigne. Je crois qu'il y a quelque danger pour nous-mêmes d'oublier cette sorte de relation avec tous ceux que le Seigneur a suscités pour le bien de l'Église. Il y a certains signaux qui ne doivent jamais être effacés. L'un est cette chose même, le privilège et l'obligation de ceux qui sont enseignés de se souvenir des chrétiens qui enseignent dans l'amour. Il n'est pas dit « celui qui les enseigne », mais « celui qui enseigne ». Quelle grandeur de sentiment béni nous voyons là. Supposons que vous soyez exempt d'un tel besoin dans la localité où vous habitez. Devez-vous vous limiter au point de perdre de vue les droits du Seigneur ailleurs? Ce serait vraiment de l'égoïsme. Rien ne saurait être plus dégradant pour des chrétiens, après qu'ils ont abandonné le mal qui existe dans un lieu ou un autre, et qu'ils ne font plus ce qui était presque obligatoire, que de prendre avantage du nom du Seigneur pour avoir ce qu'on pourrait appeler une église à bon marché, oubliant qu'ils appartiennent à l'église de Dieu comme un tout. Que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer à tous les biens temporels celui qui enseigne. Que personne ne suppose que ceci n'était donné que pour les premiers temps ou qu'il y ait aucune circonstance qui puisse changer la responsabilité des saints à cet égard. Il est bon de nous rappeler les uns aux autres que nous sommes membres du corps de Christ. Prenez le cas des ouvriers qui travaillent à l'étranger. Cela ne nous parle-t-il pas? Quel droit à notre amour et à notre sympathie? Le Seigneur attend maintenant un bien plus grand renoncement à soi et un bien plus grand service d'amour que lorsque c'était une question de loi. Ne nous contentons pas de cesser de mal faire, mais apprenons aussi à bien faire. Ne soyez pas séduits, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption. Il s'agit évidemment ici d'une question de satisfaction de soi-même d'une façon ou d'une autre. S'il y a du cœur pour le Seigneur, on trouvera bien vite une manière de le servir pleinement. Mais cette manière demande souvent beaucoup de renoncement à soi-même. Il n'y a point de circonstances qui mettent de côté cette vérité. On ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Car celui qui sème pour sa propre chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ceci est très fort, mais c'est absolument vrai. Quelqu'un pourrait me dire, j'avais compris que vous enseignez que ceux qui croient ont déjà la vie éternelle. Mais ici, il est dit que celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Les deux déclarations ont la plus grande valeur, mais le point de vue est totalement différent. Si Dieu exhorte les siens à une marche sainte, il montre que la vie éternelle est la couronne de cette marche et la fin de celle-ci. Quel que soit le salut que la grâce introduit, elle ne met jamais de côté la valeur d'un saint dévouement à Dieu. Et par conséquent, ceux qui ont la vraie foi manifestent aussi une sainteté réelle, et cela seul. Les deux choses se combinent. Celui qui croit en Christ reçoit la vie éternelle. Quelle en est la conséquence? Il sème pour l'esprit et moissonne la vie éternelle. La vie éternelle ici est évidemment ce que nous devons avoir dans la gloire. La vie éternelle dont Jean parle est ce que le saint possède sur la terre. Les deux sont vrais. Dans la gloire, il trouvera la vie éternelle sans mélange. Je la reçois maintenant comme croyant de Christ et je la trouve au ciel suivant le sentier de la sainte volonté de Dieu. La résurrection de vie des croyants se compose de ceux qui ont pratiqué le bien ici-bas. Or, nous ne nous lassons pas en faisant le bien, car au temps propre nous moissonnerons si nous ne défaillons pas. Il y a souvent un grand danger de se relâcher dans la course. Un homme commence bien et favorablement, mais après un certain temps il trouve que tant de personnes ont profité de lui, qu'il devient réservé et soupçonneux. C'est se lasser en faisant le bien, ou l'effet de cette lassitude. Il est décidé à ne plus se laisser duper. La vérité est que la chair a une grande part dans un tel genre de langage et de sentiments. Lorsque les âmes sont occupées de la grâce de Dieu, elles ne sont pas si aisément fatiguées. Est-ce une raison pour un saint, parce qu'un autre a été égoïste, de devenir égoïste aussi? L'état convenable pour un chrétien, c'est d'avoir un cœur ouvert et généreux, et d'être actif à chercher des moyens convenables de faire le bien. Le Seigneur ne dit pas « donner ce qu'il demande », mais le principe demeure vrai que le chrétien doit garder cet avantage de terrain béni, d'être celui qui donne. Si je suis sur le terrain de la loi, je ne ferai que marchander. Mais si je suis sur le terrain de la grâce et de la foi en Christ, j'aurai la place qui est plus bénie, et il est plus heureux de donner que de recevoir. Quand il est parlé ici de moissonner, il est clair que c'est dans la gloire. Nous ne devons pas nous y attendre ici. Nous pouvons rencontrer ce qui est doux et reconnaissant, mais nous ne devons pas être surpris s'il en est autrement, et s'il y a beaucoup de choses qui sont pénibles de la part des hommes. Rappelons-nous que c'est au Seigneur que nous prêtons. Y a-t-il là quelque sujet de déception? Celui qui regarde au Seigneur n'en éprouve jamais. Ainsi donc, comme nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous. C'est là l'affaire du chrétien de faire le bien, mais surtout à ceux de la maison de la foi. Il y a une relation spéciale avec les saints, mais nous ne devons pas nous arrêter là. Comme nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi. Il est important de nous rappeler, en lisant chaque partie de la parole de Dieu, que rien n'est introduit sans l'inspiration directe du Saint-Esprit. Il y a un passage spécial dans 1 Corinthiens 7, où l'apôtre affirme expressément que ce n'est pas le Seigneur, mais lui-même qui donne un certain jugement quant aux relations naturelles des croyants. Mais même l'apôtre n'écrivait pas ainsi sans le Saint-Esprit. Il était inspiré pour dire que ce n'était pas le Seigneur, mais lui-même. Dès lors, il n'y a pas la moindre contradiction, même dans une manière de parler aussi exceptionnelle. Prenez encore le livre de Job, où vous trouvez Satan qui parle, aussi bien qu'ailleurs. Mais alors, tandis qu'aucune personne intelligente ne voudrait soutenir que ce que Satan dit était inspiré, Néanmoins, l'écrivain du livre a été inspiré pour nous le donner parfaitement. L'écrivain était entièrement conduit de Dieu pour rapporter d'entre les paroles, bonnes ou mauvaises, des personnes concernées, un homme, Satan ou le Seigneur lui-même, juste ce qu'il fallait pour atteindre le but divin dans cet écrit. Ainsi, il n'y a pas une exception quelconque dans la Bible à la grande vérité que toute écriture est inspirée de Dieu. Ce n'est pas une déduction purement humaine, mais la doctrine positive de Dieu lui-même. Tout ce qui tombe sous la désignation de « écriture » est inspiré de Dieu. Telle est la déclaration expresse de l'apôtre Paul dans sa dernière épître de Timothée. Et il ne la limite pas, je crois, à ce qui existait déjà, mais laisse aussi place pour ce qui devait être écrit, comme pour l'Apocalypse. Toute écriture est inspirée de Dieu. Tant ce qui avait été donné que le peu qui restait pour clore le canon de la Bible, tout était également de Dieu. Non pas que tout soit également élevé dans son caractère, ni que tout revête la forme de doctrine, ni même que tout soit révélation, car révélation et inspiration sont deux choses différentes. En donnant le récit de la vie de notre Seigneur, les écrivains rapportaient naturellement à l'occasion ce qu'ils avaient vu et entendu eux-mêmes. C'était inspiré, mais une révélation est ce que l'homme n'a jamais connu. Lorsque l'apôtre Paul dit « Nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, descendra du ciel », ce n'est pas seulement une portion inspirée, mais une révélation. Aussi, naturellement, toute prophétie est nécessairement une révélation. Et c'était uniquement dans le cas d'une révélation positive qu'il était permis d'arrêter une personne qui était en train de parler. Peu importe l'importance de ce qu'elle communiquait, si quelque chose était révélé à un autre qui était assis, il avait le droit d'arrêter celui qui parlait. Ceci a nécessairement pris fin maintenant, il me semble. La révélation étant complète, toute tentative d'agir sur ce pied-là serait non seulement irrégulière et inconvenante, mais virtuellement une prétention à une nouvelle révélation, ce qui est positivement faux et un déshonneur fait à celle qui existe. Quand il restait encore à communiquer une partie de la pensée de Dieu, Dieu maintenait le droit souverain de son esprit d'introduire une révélation. Mais quand toute la pensée de Dieu a été entièrement révélée dans sa parole, une telle manière d'agir a dû naturellement cesser. Ainsi, bien qu'une personne puisse avoir ce qui venait très réellement de Dieu, son devoir serait d'attendre que le moment convenable soit venu. La chair, Satan, pourrait empêcher, mais Dieu est au-dessus de toutes les difficultés. Je fais ces remarques générales en rapport avec le verset que nous allons considérer. Ce verset pourrait sembler un peu surprenant dans une épître si pleine de déclarations de doctrine et d'appels à la conscience et au cœur. Au milieu de tout cela, l'apôtre dit « Vous voyez quelle longue lettre je vous ai écrite de ma propre main. » Ou bien, si vous prenez la phrase comme elle peut très bien être prise, « Vous voyez avec quelle grande lettre, etc. » La chose est encore plus frappante. Écrire était un peu inhabituel, même pour l'apôtre Paul. Écrire un document important, ce n'était pas une chose ordinaire, sinon par le moyen d'un secrétaire. C'était un métier ou une occupation en soi. En conséquence, c'était l'habitude de ceux qui étaient occupés activement et à une tâche difficile d'employer quelqu'un pour écrire pour eux. Cependant, dans le cas présent, l'apôtre écrivit lui-même et, comme il n'était pas habitué à écrire, il appelait l'attention sur les gros caractères de l'épître. C'était une lettre comparativement courte, mais elle était toute écrite par lui. Et comme il n'était pas habitué à écrire ses propres compositions, les lettres paraissent avoir été écrites en gros caractères et lui avaient probablement causé une difficulté considérable. Car il faut nous rappeler qu'il y avait une grande différence entre les possibilités qu'on avait alors pour écrire et celles dont on jouit à présent. Mais il y avait dans ce simple fait quelque chose qui était en rapport avec la manière et la portée de toute l'épître. Ce n'est pas une simple circonstance isolée, mais l'apôtre insiste là-dessus à cause de l'état des Galates auxquels il s'adressait et des dangers qu'il courait. Le Saint-Esprit l'a conduite à exprimer le désir le plus fort et le plus ardent qu'il soit délivré. Il met donc de côté toute pensée d'employer un intermédiaire entre eux et lui. Peu importe la difficulté, il leur écrira lui-même. Dans d'autres occasions, il pourrait employer Tertius, mais le cas qu'il avait en main était si urgent, la question dont il s'agissait si préoccupante et si importante, que toute autre tâche devait céder le pas. C'était un moment si plein de graves dangers qu'il ne tient compte ni du temps, ni de la peine, ni de rien d'autre. C'était un témoignage de l'intense intérêt qu'il prenait à ces scènes de la Galatie, et un témoignage d'autant plus frappant à cause de l'absence marquée de ses salutations accoutumées, selon sa bienveillance personnelle et fraternelle. Nous avons là une confirmation magnifique de la manière remarquable dont le Saint-Esprit mentionne des faits qui portent l'empreinte de la pensée même de Dieu, de ses soins et de son amour pour les siens, de sa profonde sollicitude pour eux. L'apôtre lui-même attire l'attention sur les circonstances de cette épître. Il avait écrit par d'autres et à d'autres beaucoup plus librement, car, comme je l'ai dit auparavant, il n'y a pas une seule salutation dans l'épître. Ce n'est pas qu'il était à l'étroit dans son désir devant Dieu, mais il ne pouvait donner libre cours à ses affections chrétiennes envers eux. Il y avait dans leur conduite ce qui était si désastreux et si contraire à la gloire de Christ, quoique cela puisse être mélangé avec du bien, qu'il était en perplexité à leur sujet. Il espérait à leur égard, et c'était là tout. Il avait confiance à leur égard par le Seigneur, mais s'ils regardaient eux-mêmes à ce qu'ils faisaient et disaient, ils ne pouvaient en avoir aucune. Ces deux faits donc, l'absence de salutation personnelle et le fait qu'il écrivit la lettre de sa propre main, fournissent l'un et l'autre un témoignage remarquable de la manière dont l'amour de Dieu agit par le moyen du cœur d'un homme. Tout ce qui n'est qu'un échange d'aménité fraternelle a pris fin. On aurait pu dire « quel manque d'affection de la part de Paul ». Mais l'affection fraternelle n'est pas l'amour, quoiqu'on les confonde souvent. Si l'apôtre, dans un état où les choses étaient, avait envoyé un message bienveillant à l'un ou à l'autre, cela aurait été une chose purement humaine, non pas de Dieu. Il pouvait le faire en écrivant aux Romains, et même aux Corinthiens, mais non pas aux Galates. Quelle idée cela donne de leur état! Et pourtant, il devait y avoir des abominations plus grandes encore que celles-ci, des choses incomparablement pires devaient s'introduire furtivement. Mais il était réservé à Jean d'en parler. Et quoique parmi tous les autres, Jean ait été, puis-je le dire, le champion le plus éminent de l'amour, toutefois Jean lui-même, dans sa première épître, est si loin de faire des allusions personnelles directes qu'il ne l'adresse pas du tout à une assemblée, mais cette épître commence sans adresse spéciale et dans la forme la plus générale. Et c'est pour cela qu'elle est communément appelée une épître catholique ou générale. Elle a peut-être été écrite ainsi, afin d'être d'une manière prééminente une sorte de lettre circulaire à l'Église entière. Je conclus de cela que partout où il y a quelque chose qui touche à l'œuvre de Christ, comme chez les Galates, ou à la personne de Christ, comme dans Jean, il faut que toute considération personnelle cède la place. Comme le Seigneur, dans sa mission finale à Israël, les 70, Luc verset 10, défendit aux disciples de saluer quiconque en chemin, de même, ici, le Saint-Esprit agit d'une manière un peu analogue, parce qu'il y allait de la gloire de Christ, et que le fondement de toute bénédiction était menacé. Une autre chose à remarquer, c'est que les enfants de Dieu, généralement, ne comprennent pas comment le mélange de la loi avec Christ est à la racine de mille difficultés. C'est une chose rare maintenant de trouver un chrétien qui ne soit pas en principe là où les Galates étaient. Dans l'état présent de la chrétienté, nous avons tous été élevés à cela depuis notre enfance. Nous ne le trouverons pas seulement dans des endroits particuliers, ici et là, mais, sous une forme ou sous une autre, c'est le mal qui prévaut universellement, le mal enraciné, chronique et fatal dans la chrétienté, qui s'insinue dans les pensées et les voies des hommes et dans toutes choses. L'apôtre, après avoir parlé de cette manière si remarquablement brusque qui marque son caractère, car nous devons tous avoir remarqué l'extrême rapidité de transition d'un sujet à l'autre qui caractérise si fréquemment les écrits de l'apôtre, revient au sujet qui agitait son esprit et résume dans ses derniers versets et le danger et la bénédiction. Tous ceux qui veulent avoir une belle apparence dans la chair, ceux-là vous contraignent à être circoncis, seulement afin qu'ils ne soient pas persécutés à cause de la croix de Christ. Ils ne s'occupent pas de ce qu'on pourra dire. On pourrait l'accuser d'imputer des motifs, mais peu importe. On a beau nier que le légalisme fraternise avec le monde, qu'il aime ses aises et qu'il aime une récompense présente, quelque parade qu'il fasse de piété, il n'est après tout qu'un désir d'avoir une belle apparence dans la chair. C'est de toute importance, car je le demande, qu'est-ce que les hommes recherchent maintenant? Qu'est-ce qui ferait plaisir aux hommes? Si l'on voyait tout le monde fréquenter les églises et les chapelles, des personnes se conduisant par ailleurs sobrement et d'une manière décente et régulière, quel sujet de joie universelle quant à l'amélioration dans l'état de la chrétienté et quant à ses perspectives, et que serait tout cela aux yeux de Dieu? Je n'hésite pas un instant à dire que, s'il n'y avait que cela, ce ne serait qu'une belle apparence dans la chair. Ce que nous avons, comme chrétiens, le droit d'attendre et la chose sans laquelle nous ne devrions jamais être satisfaits, c'est que les âmes passent de la mort à la vie, que les âmes soient délivrées de la puissance de Satan et transportées dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu, jusqu'à ce qu'elles aient passé les frontières, tiré des régions des hommes et amenées en la présence de Dieu. Qu'y a-t-il eu de fait qui puisse fournir aux chrétiens un fondement positif de joie et de reconnaissance? Il n'est pas seulement question maintenant de la société ni du monde. Nous savons que le monde est sous la condamnation, que depuis la croix de Christ le jugement le menace toujours, d'une manière aussi certaine que dans le cas d'un criminel qui a été jugé et trouvé coupable et qui, comme condamné, attend dans sa cellule que sa sentence soit exécutée. Telle est la condition de l'homme. Les chrétiens réalisent-ils cela? Bien imparfaitement. S'ils le faisaient, pourraient-ils occuper un terrain commun avec le monde? Une personne pourrait-elle entrer dans la cellule du condamné et lui parler comme s'il n'y avait rien de spécial? Nous penserions nécessairement que celui qui parlerait ainsi serait dénué de tout sentiment convenable. Et il en est de même, mais d'une manière bien plus terrible encore que l'exécution d'un seul criminel. Nous savons bien que dans le jour qui s'approche, les hommes ne pourront échapper ni dans le moment même, ni pour l'éternité. Et comme il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme aussi. On mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint et les fit tous périr. De même aussi, comme il arriva au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais au jour où Lot sortit de Sodome, il plut du feu et du soufre du ciel qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Dieu demande de tous ses enfants qu'ils rendent dans le monde le témoignage qu'ils ont appris de Dieu lui-même, que tout est incertain et ne tient qu'à un fil, que le jugement est suspendu sur le monde, que Christ est prêt à juger les vivants et les morts. Il attend la volonté de son Père. Tout dépend seulement de cela. Mais il nous est dit, et nous savons, qu'il va venir et qu'il vient bientôt. Et c'est ce que nous attendons. Toutefois, au milieu de cette scène d'un monde condamné, avec le Seigneur sur le point de venir pour exécuter le jugement sur le monde, il y a une chose telle que nombre d'âmes qui sont passées à la vie éternelle par la foi en Christ et qui le savent, du moins qui devraient le savoir. Ils appartiennent à celui qui va juger, non à la scène qui va être jugée. Quel est l'effet de tout cela? Ils ont en esprit abandonné les circonstances dans lesquelles les hommes s'efforcent de maintenir une belle apparence. Ils se sont repentis envers Dieu. Ils se sont inclinés devant le Sauveur, le Seigneur Jésus, et ils ont trouvé en lui la vie éternelle et la paix. Tout est réglé entre leur âme et Dieu. Avec Christ, la lumière, la vérité, la vie, la belle apparence a disparu. Et pendant que cette grande œuvre se poursuit, une grande partie du monde cherche à être aussi religieuse que possible, c'est-à-dire à réconcilier la religion avec le monde. Et par l'effet de cette stratégie de l'ennemi et de leur propre manque de vigilance, de très nombreux enfants de Dieu descendent au niveau du monde, parce qu'il y a là de grands noms, parce que les apparences sont là, et qu'on peut même citer la parole de Dieu pour montrer qu'il est bien de marcher là. C'est ce qu'on fait ordinairement en prenant ce que Dieu dit à Israël, qui était le peuple de Dieu selon la chair, gouverné par la loi, pour l'appliquer à ceux qui sont le peuple de Dieu maintenant, appelés à marcher sous la grâce et sous Christ seulement, qui ont le Saint-Esprit afin qu'ils marchent par l'Esprit, et qu'ils ne cèdent à rien de ce qui est de la chair. Le mélange de ces deux choses séduit les chrétiens et les entraîne dans ce qui n'est, après tout, que la religion de la chair. Ils pensent qu'un système terrestre de forme religieuse doit être bon maintenant, parce qu'il avait la sanction de Dieu dans l'Ancien Testament. Ils voient que Dieu reconnaissait autrefois un sanctuaire terrestre, et ils en tirent un argument pour tous les temps et tous les lieux. Ainsi, ils se trouvent entraînés dans la belle apparence dans la chair, et cela d'autant plus aisément qu'elle est habituellement accompagnée de l'absence de persécution, et même de la considération dans le monde. Les hommes sentent bien que vous ne pouvez élever le monde à marcher avec vous au-dessus de son propre niveau de vue et de raison. Mais du moment que vous vous abaissez pour venir à la rencontre du monde, vous quittez le terrain chrétien. Il faut une nouvelle nature. La foi est indispensable. Le monde n'a rien de cela. Vous devez descendre jusqu'au sentier du monde si vous voulez agir de concert avec le monde. Ce n'est pas que le monde par là devienne chrétien, mais que les chrétiens aussi deviennent mondains. Tel est le seul résultat de la tentative d'unir les chrétiens avec ceux qui ne sont pas chrétiens dans le service et le culte de Dieu. Écoutez la sentence solennelle. Tous ceux qui veulent avoir une belle apparence dans la chair, ceux-là vous contraignent à être circoncis, seulement afin qu'ils ne soient pas persécutés à cause de la croix de Christ. Ils veulent que vous vous soumettiez à ces formes religieuses. La raison, c'est qu'ils craignent de souffrir pour Christ. La croix est la fin de l'ancien monde où la chair était reconnue, et l'introduction du nouvel état de choses où rien, sinon ce qui est du Saint-Esprit, n'a de valeur aux yeux de Dieu. L'apôtre fait voir que l'égoïsme, après tout, est au fond de la chose. Quand on marche avec le monde, la conscience n'est jamais tranquille. Rien ne plaît tant au monde que d'amener de vrais chrétiens à marcher avec lui. Combien est humiliant le succès de Satan en ceci. Le but pour lequel Dieu a appelé les chrétiens hors du monde, c'est de manifester un peuple heureux en Christ, et pourtant n'ayant rien que de la tribulation dans le monde. Je ne parle pas maintenant de nos épreuves ordinaires, de nos épreuves de tous les jours. Si les saints font des choses folles et qu'ils en souffrent comme d'autres, ils ont leur part des résultats de leur propre folie. Mais il y a des épreuves qui tombent sur un chrétien parce qu'il est chrétien. Être méprisé et rejeté, décrié et calomnié parce qu'il marche avec Dieu et qu'il s'est mis du côté de Dieu contre le monde, parce qu'il a part à la croix de Christ et qu'il attend sa gloire, refusant par conséquent non seulement les mauvaises choses du monde, mais ses meilleures choses. C'est là ce qui excite tant la colère du monde. Ils peuvent parler des fautes des chrétiens. Mais si les mêmes fautes étaient commises par le monde, avec quel empressement et quelle facilité on les oublierait. Mais quand il s'agit d'un chrétien, il y a ce qui leur fait sentir que, quelle que soit la faiblesse et la folie de la personne, il y a quelque chose qui est au-dessus du monde, et c'est, en réalité, là ce qui les trouble. Si les chrétiens dont il s'agit ici avaient seulement voulu consentir à être circoncis, mais tout homme peut être circoncis même s'il est inconverti. Prenez seulement un engagement de tempérance avec un homme du monde, et il sera content parce que vous descendez à un niveau qu'il peut occuper avec vous. Je ne me mêle pas aux efforts du monde pour réformer le monde. Mais j'ai beaucoup à dire sur le péché et la honte des chrétiens qui s'associent avec le monde dans ses efforts pour arrêter la plaie par le moyen de promesses et de vœux d'hommes. C'est un terrain absolument faux et contraire à l'Évangile, dont le point de départ est la corruption totale de la nature de l'homme. Tandis que du moment que vous faites une œuvre pour améliorer cette nature, ce que l'homme du monde peut également faire, et il peut signer l'engagement de tempérance aussi bien que vous, il est clair que vous vous êtes placé sur un terrain où le chrétien abandonne Christ comme la seule arme d'une trempe divine dont il puisse user envers l'homme dans la chair et retourne à l'arc et à la flèche, si je peux m'exprimer ainsi, de la contrainte morale. En vérité, je ne puis considérer cela que comme une chose inférieure même à la circoncision, qui était le type d'une vérité très bénie, du dépouillement total de la chair. Mais quand Christ mourut, toutes les choses qui n'avaient été que des types et qui avaient entièrement manqué en tant que remède efficace ont été ensevelies dans son sépulcre. Et maintenant il est ressuscité et il y a une vie nouvelle en résurrection qui n'a rien à dire à la vieille vie sinon de la mortifier. La réalité de la vie a été manifestée et c'est avec elle que le chrétien a affaire maintenant. Christ est devenu sa vie et aussi son objet. C'est le grand but du diable d'amener les chrétiens à inscrire sur les enfants de Dieu un nom autre avec Christ. Ainsi donc, peu importe ce que c'est, que vous preniez la circoncision comme type de bénédiction spirituelle ou que vous preniez les simples restrictions morales naturelles de nos jours, c'est une erreur complète quant à l'objet pour lequel Dieu nous a appelés hors de ce monde. Le chrétien est en dehors de cette sphère. Il est appelé dans le domaine de la grâce. La place du magistrat n'est pas une place de grâce, mais de gouvernement, ce qui naturellement demande la punition du mal. Ce n'est pas la grâce. La grâce n'est pas la loi. Mais à celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Ce serait la fin de toute justice si les magistrats essayaient d'agir ainsi. Mais tandis que le chrétien n'a rien à faire en dehors du domaine de la grâce, il est tenu de respecter le gouvernement et de ne jamais parler avec mépris des dignités de ce monde. Mieux il connaît ses propres privilèges, plus il est à même de maintenir l'honneur du magistrat. Il le reconnaît d'autant plus qu'il ne le convoite pas lui-même. Il a lui-même une bien meilleure place. Mais s'il connaît le secret de sa propre joie et de sa propre liberté dans ce monde, qu'il reconnaisse en même temps que les autorités qui sont au-dessus de lui et que Dieu a ordonné pour le gouvernement terrestre. Lorsque des personnes sont dans la même sphère, il peut y avoir plus ou moins de rivalité, car les hommes aiment mieux gouverner les autres que d'être gouvernés eux-mêmes. Mais quand une âme est entièrement délivrée du monde, elle peut d'autant plus volontiers reconnaître ce qui est de Dieu ici-bas et voir la sagesse de l'ordre qu'il y a établi. C'est sur ce fondement-là que le Saint-Esprit insiste toujours sur l'obéissance du chrétien aux lois et sur l'honneur qu'il doit rendre au roi ou à tout autre gouverneur auquel il peut se trouver assujetti. Mais revenons à notre sujet. L'apôtre fait voir de plus qu'après tout, ces zélateurs de la circoncision ne gardaient pas la loi. Ils ne l'observaient qu'en partie, avec une bonne mesure d'inconséquence, malgré leur vif sentiment contre les défenseurs de la liberté chrétienne. C'est toujours le cas. Ceux qui insistent sur la perpétuité du sabbat, comment le gardent-ils? Ce n'est pas seulement qu'ils ne prennent jamais garde au vrai jour, mais en supposant que le jour du Seigneur soit réellement le même que le sabbat, l'observent-ils selon la loi? Pas du tout. Ils vous diront que le christianisme, outre qu'il a changé le jour, a modifié le mode de l'observer, que l'évangile mitige la sévérité de la loi de Dieu, etc. Si ce n'est pas là annuler la loi par incrédulité, il est difficile de dire ce qui le serait. Je nie leurs faits, leurs doctrines et leurs conclusions. Le christianisme, bien loin d'atténuer la loi ou de réduire ses sanctions, est ce qui seul donne à la loi sa pleine valeur. Annulons-nous donc la loi par la foi? Qu'ainsi n'advienne. Au contraire, nous établissons la loi. Romains 3, verset 51. La doctrine de la foi, au lieu d'affaiblir la force obligatoire de la loi, l'illustre et la maintient au plus haut degré. Mais l'établissement de la loi, dont l'apôtre parle dans Romains 3, n'a aucun rapport quelconque avec la question d'une règle d'après laquelle le chrétien a à marcher. Le chapitre parle de la ruine de l'homme et de la justice de Dieu, non pas de pratique, et démontre que la foi maintient l'autorité de la loi dans la croix de Christ, laquelle reconnaît la juste et totale condamnation des hommes et est la base de la justice divine qui justifie, qui est révélée aux croyants et devient sa portion. La malédiction de la loi est tombée sur Christ, et elle a ainsi été magnifiée au plus haut degré, sa pleine sentence ayant été complètement épuisée sur la tête du Fils de Dieu. Ainsi, que vous considériez Dieu ou l'homme ou le Sauveur, la foi établit la loi comme aucune autre chose n'aurait pu le faire. Mais quant au jour du Seigneur, loin d'être le même que le sabbat, c'est le premier jour de la semaine, non le septième, et il repose sur des bases toutes différentes. Quand on en vient à mettre à l'épreuve ces hommes qui voudraient être docteurs de la loi, on voit bientôt leurs ailes succomber dans la pratique, et il est aisé de les convaincre d'introduire des changements et des modifications afin que tout puisse s'adapter au temps, aux lieux, aux climats et aux gens, c'est-à-dire leur convenir à eux-mêmes dans les choses de Dieu. Cette théorie d'adoucissement de la loi et d'une loi flexible ne peut jamais résister à un examen réel. De l'autre côté, ceux qui maintiennent que le jour du Seigneur est une chose nouvelle, qui ne se rattache en aucune manière ni à la création, ni à la loi, n'éprouvent aucune difficulté parce qu'ils voient que le même Dieu, qui à l'origine a sanctifié le sabbat et qui a donné la loi à Israël, a trouvé bon d'attacher un honneur spécial au premier jour de la semaine, en souvenir de la rédemption accomplie dans la mort et la résurrection de Christ. Mais il voit ce jour comme ayant son propre caractère, et non comme étant confondu avec le sabbat. Le jour du Seigneur ne demande pas un simple repos que vous pouvez partager avec votre bœuf ou votre âne, et il est si loin d'être vrai que l'honneur qui lui est dû consiste principalement dans le repos du corps, que je crois que, si un chrétien pouvait en ce jour-là marcher 20 fois le chemin d'un sabbat pour accomplir un service spécial pour le Seigneur, il aurait non seulement la liberté de faire cette œuvre, mais ce serait une chose très agréable au Seigneur. Chacun de ces jours est séparé des autres jours par l'autorité divine, mais sous tous les autres rapports, ils diffèrent aussi positivement que la loi et la grâce, ou la vieille création et la nouvelle. Car ceux-là qui sont circoncis, eux-mêmes ne gardent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis, afin de se glorifier dans votre chair. Cela est tout à fait vrai aujourd'hui. La vérité n'est pas la pierre de touche dans le monde religieux, ni Christ lui-même, ni son service. Si vous refusez leur parti ou leurs idoles, attendez-vous à l'opprobre, à la calomnie, au mépris et à la haine. Cédez à leur système judaïsant, et vous pourrez retenir impunément des doctrines blasphématoires pour ce qui les concerne. Touchez à leurs abus de la loi et ils s'écrieront « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » La loi est leur Seigneur plus encore que Christ. Je fais allusion ici à un fait littéralement existant de nos jours dans l'organe le plus populaire du parti soi-disant évangélique, mais à vrai dire légal. Et maintenant, l'apôtre, après avoir parlé du mal, passe au côté béni du sujet. Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié, et moi au monde. Il se glorifiait dans ce qui pouvait exalter la nature humaine, parce que de cette manière-là, il pouvait amener le monde et ses multitudes à s'unir avec eux. Dans le chapitre 3, la croix de Christ est envisagée comme délivrance de la loi, parce que Christ sur la croix est devenu malédiction pour nous. Si un homme croit en Christ, s'il le confesse comme le Fils de Dieu, nieriez-vous qu'il ait la vie éternelle? Mais à moins qu'un tel homme ne reçoive la doctrine de la croix d'une manière intelligente et ne l'applique à sa position, il est encore plus ou moins sous la loi et ne comprend pas qu'il est complètement retiré du vieil état de choses et placé sur un nouveau terrain. Dans le chapitre 5, l'apôtre applique la doctrine de la croix à la chair et fait voir que ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Je trouve ici que ma chair est une chose que j'ai le droit de regarder, non moins que la loi, comme mise de côté devant Dieu. Maintenant, dans le chapitre 6, intervient la troisième chose, le monde. Vous avez une gradation régulière. D'abord, c'est l'affranchissement de la loi qui affecterait la conscience d'une personne pieuse. Puis, quand un homme est affranchi de cette anxiété, intervient la question de la chair avec ses passions et ses convoitises. Mais il lui est dit que tout cela a été jugé à la croix de Christ. Ainsi donc, comme une partie de la consolation que Dieu me donne, je suis en droit, comme une question de foi et non de simple sentiment, de savoir que ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Il n'est pas dit qu'il la crucifie, comme si c'était quelque chose qui se continuait, mais c'est une chose faite en recevant un Christ qui a été crucifié. Aux yeux de Dieu, et maintenant aussi pour la foi, leur nature a été clouée au bois et s'en est fait d'elle devant Dieu. Et maintenant ils ont une nouvelle nature, comme dit Paul. Je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi. Naturellement, la vieille nature que nous avons existe toujours, mais pour la foi, Dieu en a déjà fini avec elle à la croix de Christ, en sorte que l'affaire d'un homme chrétien est de s'occuper non pas simplement de restrictions, mais de Christ. C'est là ce qui, par l'énergie de l'Esprit, remplit l'âme de tout ce qui est bon, qui la fait avancer dans ce qui est aimable, ce qui, en un mot, est la vraie puissance de sainteté chrétienne. Si un homme est occupé de ce qui est bon, il haïra sa chair, mais c'est uniquement d'être occupé de Christ qui donne une puissance à l'âme pour appliquer ainsi à la chair la sentence de Dieu. Maintenant vient la troisième et dernière chose dans l'expérience chrétienne. Car vous trouverez des hommes qui savent un peu ce que c'est que d'être mort à la loi et à la chair, et qui croient encore que c'est le devoir du chrétien dans ce monde de servir Dieu dans sa génération. Mais comment Dieu veut-il qu'on le serve maintenant? Jamais par aucune chose qui soit en contradiction avec la croix de Christ. Le service du chrétien doit être fondé sur la croix. Et qu'est-ce que la croix déclare concernant le monde? Qu'il est maintenant en guerre ouverte avec Dieu. Depuis la croix de Christ, Dieu n'a jamais eu aucune alliance avec le monde. Avant cela, le monde était toléré, et par conséquent il n'y avait pas de mal pour Joseph d'être gouverneur en Égypte, ni pour Daniel d'être assis à la porte du roi de Babylone. Mais c'est pure ignorance de raisonner d'après ce qui était toléré alors, pour en déduire ce qui est agréable à Dieu maintenant que la croix de son Fils est un fait. Dieu n'ignore pas la croix, si les chrétiens l'ignorent. Cette même croix de Christ, qui est mon salut, ma délivrance de la loi et de la chair, me montre que je n'ai aucune part avec ce monde, sinon comme un étranger béni qui le traverse. Nous pouvons avoir des occupations qui sont toutes bien convenables, mais ce n'est pas du tout là ce que vous pouvez appeler une chose du monde. Le Seigneur a vécu ici-bas, il est mort ici et ressuscité ici, a mangé et bu dans ce monde, mais il n'a jamais été de ce monde, et il en est et il devrait en être de même du chrétien. Notre Seigneur ne formait pas une part et portion de ce monde, au point que son apparition dans le monde ou son départ du monde en trouble le courant pour un moment. On n'aurait pas senti son absence dans le monde. Et du moment que le chrétien devient une partie intégrante de la puissance motrice qui fait mouvoir les rouages du monde, tout est dérangé pour ce qui regarde sa fidélité à Christ. Un chrétien devrait constamment être un moyen de bénédiction dans ce monde. Mais comment et quel est le caractère de son action? Il rend témoignage à Christ, à son Sauveur. Mais Christ n'a jamais cherché son intérêt particulier, faisait toujours du bien, mais le faisait pourtant comme étant la volonté de son Père, agissait toujours pour des motifs qui n'étaient pas de ce monde mais d'en haut, ne s'associant jamais au plan des hommes pour améliorer l'homme, mais réalisant le fait que le monde était l'ennemi de Dieu, et pourtant que l'amour de Dieu l'avait envoyé dans ce monde pour lui faire du bien. Tel était Christ, et il devrait en être de même du chrétien. L'affaire du chrétien, c'est d'être la lettre de Christ. Ainsi donc, le seul signe et la seule pierre de touche, quant à tout ce qui se présente devant quelqu'un, en faisant ceci ou cela, est-ce que j'agis comme une lettre de Christ ? Mais pour savoir ce qui convient à une lettre de Christ, il faut que je recherche ses voies dans les paroles du Saint-Esprit. Il y a toujours de la lumière dans l'Écriture pour montrer quelle est sa pensée pour le moment présent et quelles sont les choses qui ont disparu avec les temps anciens, les choses qui appartenaient à la loi et au monde, et à Israël, qui était autrefois le témoignage de Dieu dans le monde. Mais aujourd'hui, le chrétien est le témoin de Christ, et il n'est pas du monde, quoi qu'il soit dans le monde. C'est là le grand moyen pour éprouver nos voies, et pour trouver ainsi jusqu'à quel point nous nous glorifions dans la croix. C'est-à-dire que vous trouvez que le chrétien et le monde sont placés sur des principes totalement opposés. La croix de Christ est ce qui tout d'abord crucifie le chrétien au monde, le place entièrement en dehors du monde, comme quelqu'un qui est sauvé du monde. Mais le monde lui est aussi crucifié. Vous voyez là le monde avec toute sa culpabilité, qui n'est pas ôtée, ne connaissant pas le Père malgré la venue du Fils. Ainsi, il ne saurait y avoir aucun terrain commun entre le chrétien et le monde, pas plus que la chose serait possible dans ce pays s'il était en guerre ouverte avec un de ses voisins. Si cela est vrai, cela ne montre-t-il pas combien peu les enfants de Dieu réalisent leur position chrétienne telle qu'elle est définie par la croix de Christ? On prêche plus ou moins que la paix a été faite par le sang de la croix, mais quant à la puissance morale de la croix, et quant à sa portée sur la loi, la chair et le monde, il y en a à peine un atome, sinon comme motif. La conséquence est que de tels chrétiens peuvent, en bonne conscience, parler de la croix et en même temps maintenir encore ce que Dieu a déjà jugé et mis de côté pour toujours. Ainsi, l'importance de la pleine délivrance chrétienne est inconnue. Les vérités fondamentales qui devraient être comprises par les jeunes enfants. Car l'Épître aux Galates ne présente pas la branche la plus élevée de la vérité chrétienne, mais plutôt les fondements indispensables du christianisme. L'apôtre introduit maintenant un autre point. Il n'aurait pas été assez de parler simplement d'être crucifié au monde. Il y a plus que cela en Christ, car dans le Christ Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont rien, mais une nouvelle création. Les gens peuvent se vanter de leur forme, ou de ne pas avoir de forme. Mais quoi qu'il en soit, tout est faux, à moins que vous n'ayez reçu de Dieu une bénédiction positive, réelle, à moins que vous n'ayez la croix de Christ et la nouvelle création. Comme chrétien, j'appartiens à un système déjà établi en Christ, dans la présence de Dieu. Je sais ce qu'est ma nouvelle nature quand je pense à Christ. Je le vois ressuscité d'entre les morts et dans la gloire, les délices parfaites de Dieu et de tous ceux qui entourent Dieu. Et c'est là que seront un jour tous les chrétiens, et c'est là en substance ce qu'ils ont maintenant, le Saint-Esprit lui-même étant les arts de la gloire. Car ce n'est pas seulement ce dans quoi ils brilleront, mais ils ont la bénédiction avant que la bénédiction soit manifestée. Le chrétien possède la nouvelle création dans la perfection en Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Elle est appelée ici la nouvelle création parce qu'elle n'est pas seulement envisagée comme une vie trouvée, mais qu'elle est mise en contraste avec la vieille vie qui avait affaire avec le monde. Ceci implique non seulement la personne de Christ, mais son œuvre. La grande œuvre de la rédemption est accomplie. La loi de Dieu a eu son libre cours et la justice est établie. La voix de la condamnation ne doit plus jamais être entendue en vertu de la croix du juste qui a souffert pour nous. Mais ensuite, il est ressuscité d'entre les morts et il est entré dans une existence nouvelle et bénie comme homme ressuscité devant Dieu. Et c'est là la nature qu'il nous communique. À moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La conséquence est qu'étant mort mais étant ressuscité, il communique cette vie même qui était en lui. En parlant de ses brebis, il dit « Je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » La vie en abondance, c'est cette nouvelle création ou la vie en résurrection. Et à l'égard de tous ceux qui marcheront selon cette règle, paix et miséricorde sur eux et sur l'Israël de Dieu. Dans la première expression, « tous ceux qui marcheront selon cette règle », il envisage spécialement, je pense, les croyants d'entre les gentils comme les Galates. Cette règle, c'est la règle de la nouvelle création, Christ lui-même. Il ajoute « paix et miséricorde sur eux et sur l'Israël de Dieu ». La seule portion d'Israël qui soit reconnue se compose des Juifs qui étaient réellement des croyants. L'expression « l'Israël de Dieu » semble être employée ici, non comme une phrase générale pour indiquer tous les saints, mais pour désigner les croyants qui étaient en Israël, ceux-là d'entre les Juifs qui avaient répudié leurs propres œuvres et trouvé leur refuge uniquement en Christ. Il est parlé de deux classes de personnes et non d'une classe seulement. Tous ceux qui marcheront selon cette règle sont plutôt les croyants d'entre les gentils. Et l'Israël de Dieu désigne les saints d'entre les Juifs, non pas l'Israël purement littéral, mais l'Israël de Dieu, ceux qui étaient vraiment israélites, dont la grâce avait disposé le cœur pour recevoir le Sauveur. Il ajoute, « Désormais que personne ne vienne me troubler, car moi je porte en mon corps les marques du Seigneur Jésus. » Leur sagesse charnelle avait introduit du désordre et toute espèce de mauvaises actions, la loi au lieu de l'amour, des questions sur son ministère, etc. Je porte en mon corps les marques du Seigneur Jésus. Il avait été fouetté, mis en prison. Quelle marque d'indignité n'avait pas été mise sur lui? Celles-là, et non la circoncision, sont les marques du Seigneur Jésus. Tout comme un esclave dans les temps anciens portait habituellement le nom de son maître marqué dans sa chair au fer chaud, ainsi Paul veut dire qu'il portait en son corps les marques du Seigneur Jésus. Que d'autres portent ou cherchent ce qu'ils voudront, Voilà les marques qui ont du prix pour moi. C'était les souffrances qu'il avait endurées pour l'amour de Christ et de l'Évangile. Rien de plus doux ni de plus touchant, mais en même temps quelle condamnation complète de ces hommes qui s'élevaient eux-mêmes, qui prenaient leurs aises en présence d'un homme dont la vie était une vie de souffrance pour Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, frère. Amen. Ceci est vraiment plein de grâce et de dignité. Il ne demande pas qu'ils sentent les tonnerres de cette loi sous laquelle ils désiraient se placer, mais que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, montrant combien ils sentaient complètement l'avantage de terrain que la grâce lui donnait, de quelle manière ils pouvaient répondre à toutes ces attaques dont il était l'objet, comment ils pouvaient appeler leur attention sur les cicatrices de sa glorieuse guerre si, de leur côté, ils voulaient parler de leur circoncision, encore qu'ils ne voulaient se glorifier en rien, sinon en la croix de Christ. Notre sagesse, c'est Christ, comme notre folie, c'est nous-mêmes. Que le Seigneur veuille donc nous accorder de mieux apprendre à connaître notre vraie sagesse et de marcher en elle, et, tout en tenant ferme la vérité, de désirer ardemment la bénédiction de ceux qui lui sont opposés, et de chercher la délivrance de toute âme autour de nous. L'épître aux Galates est le coup de mort pour le monde religieux, racine et branche, comme il l'est aussi pour le réveil ou la continuation du même système que l'apôtre Paul dénonçait alors avec tant de force, et qu'il démasque comme étant l'ennemi non seulement des saints, mais de la croix de Christ.